commençons ce cycle de cette année qui porte justement sur l'alliance. L'alliance, c'est le fond de tout, hein, puisque Dieu a créé le monde pour faire l'alliance avec les hommes. Et la Bible nous introduit dans cette histoire de l'alliance qui s'inscrit d'ailleurs au cœur de l'histoire humaine. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec la première alliance décrite dans la Bible, c'est l'alliance avec Noé. D'abord, j'introduis un peu les choses pour qu'on soit clair. Il y a un récit du déluge, bien sûr, hein, dans cette alliance. Et vous savez que le récit du déluge faisait partie des grands récits épiques de l'époque. Et que dans la tradition babylonienne, sumérienne, il y avait beaucoup de déluges. Alors, en particulier, il y a l'épopée de Gilgamesh, dont vous avez entendu parler, à peu près 4000 ans, qui a été écrit avant d'ailleurs, le déluge de Noé, et qui est pratiquement exactement le même. Alors ça c'est pour dire que l'histoire, pour qu'on soit clair, la Bible n'est pas l'histoire telle que nous l'entendons nous, c'est l'interprétation de l'histoire dans le peuple d'Israël, et aussi avec des récits plus ou moins mythiques. Et mythique, ça ne veut pas dire que c'est irréel. Au contraire, on est obligé d'avoir des récits mythiques pour aller au cœur de la réalité humaine. Car il faut bien qu'on parte toujours du fait que la Bible, Israël, ce n'est pas qu'une histoire, c'est une histoire, mais ce n'est pas qu'une histoire. L'histoire d'Israël, c'est le fondement de l'histoire de l'humanité. Il faut bien dire, c'est une méta-histoire, j'avais dit. Hein. C'est-à-dire que nous pouvons trouver dans la Bible, dans l'histoire d'Israël, toutes les interrogations et les appels qui se font maintenant pour notre humanité. Alors, lire la Bible, ça veut dire être appelé à interpréter. D'ailleurs, c'est le chef, c'est la tradition juive, fait des grandes interprétations. Et donc, c'est très important, parce que c'est l'homme qui, justement, interprète cette révélation de Dieu dans l'histoire humaine. Voilà, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, parce que je ne veux pas non plus qu'on se polarise sur des études historico-critiques sur le déluge, sur l'arche de Noé. Vous savez, les gens un peu à tradition fondamentaliste ont trouvé des restes de Noé sur le mont Ararara. Ça, on en fait une histoire comme on l'a fait en notre temps. Tandis qu'à l'époque, c'est l'histoire des inondations dans les pays babyloniens, cimériens, qui ont été relus, mais à la lumière de la foi d'Israël. Et donc, à travers cela, il veut se dire quels appels de Dieu et quelles connaissances de Dieu nous sommes appelés à vivre. Voilà, cette introduction, je passe vite parce que ça ne servirait à rien de discuter là-dessus. Hein. Alors d'abord, il faut dire que Noé, c'est un peu la préhistoire d'Israël. C'est l'histoire que je situerais entre Adam et Abraham. Alors on va essayer de saisir le sens de cela. C'est l'histoire entre le projet de Dieu et la réalité de l'humanité, et l'engagement de Dieu avec l'humanité, cet engagement qui s'appelle alliance. Parce que pour faire alliance, il faut être deux. Et Dieu et l'homme. Les deux qui sont dans un face-à-face et qui, dans une liberté, s'engagent ensemble. Donc, dans tout le récit de la Genèse, nous voyons bien que l'homme, c'est le sommet de la création. Souvenons-nous bien du récit de la création. Nous voyons la lumière, la terre, la mer, les végétaux, les luminaires, les poissons, les oiseaux, les animaux, et tout cela, création achevée. Dieu vit que cela était bon. Voilà. Et voilà, arrive l'homme. Alors là, ça change un peu dans le récit. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Jusqu'à maintenant, Dieu dit, hein, Dieu dit la lumière est faite. Dieu dit il y a les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer. Et là, quand il arrive à l'homme, il s'arrête. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Il y a une espèce d'arrêt de Dieu et de réflexion, car il est là au sommet de la création et tout l'engagement de sa création. Alors là-dessus, je passe un peu parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais ça engage pas mal quand même le récit de Noé. Parce que quand nous voyons dans le Talmud, enfin, dans des commentaires que j'ai lus, hein, eh bien, nous voyons différentes interprétations de ce faisons l'homme à notre image et ressemblance. Je ne veux pas les amener toutes. Je veux simplement dire que une interprétation qui me paraît très intéressante, ça veut dire qu'il y a un dialogue qui s'établit. Avec qui? Avec Dieu, là. Un dialogue. Évidemment, dans le Talmud et dans les Midrash, il y a d'autres interprétations. Hein. On dit, Dieu a pris conseil des anges, est-ce que c'est bon que je fasse l'homme, etc. Oui. Et même, des fois, dans le Talmud, il y a la question qui va se poser, est-ce que Dieu a bien fait de faire l'homme? On pose des questions jusqu'au bout, hein, dans les recherches bibliques. Et alors là, Dieu va faire l'homme. Il va faire. C'est-à-dire, il va construire l'homme et ils vont se construire ensemble. Le verset 26 de la Genèse, faisant l'homme à notre image, lui propose Dieu, ça veut dire, et là j'ai lu cette interprétation aussi, hein, tu as une idée de toi-même et moi également. J'ai une idée de toi à te proposer, réalisons-la ensemble. Donc cette interprétation, que c'est le rabbi José Eisenberg qui l'avait apportée là, dans une de ses causeries au jour du Seigneur, hein, me paraît importante. Parce que là, bien l'homme est le sommet de la création, mais Dieu s'engage dans un risque. Parce que ça s'engage dans une liberté entre Dieu et l'homme et Dieu. C'est pour cela que l'alliance, d'ailleurs, est au cœur de la création. Et même dans la tradition juive, je ne crois pas me tromper, on dit que Dieu a créé le monde pour la Torah. C'est-à-dire pour faire alliance avec l'humanité. Donc, c'est cela qui est le point de départ. Et là, il y a un risque. Et Dieu a couru ce risque. Je pense à Albert Lepuy, qui est cité par le père Abadie, qui dit, pour être image de Dieu, pour offrir à Dieu cet interlocuteur privilégié que Dieu cherche en lui, il fallait que l'homme soit libre. Dès le moment où Dieu voulait avoir dans sa création un véritable répondant, un vis-à-vis, il ne pouvait inscrire l'âme dans la fonctionnalité de la création. Il devait lui donner la liberté et par là courir le risque de voir l'homme s'emparer de cette liberté pour tourner le dos et peut-être même pour abîmer progressivement le magnifique habitable qui avait été destiné à l'accueillir. Et là, pour l'auteur de notre récit, la liberté de l'homme était le risque de la création. Il en est le risque, mais il en est en même temps l'enjeu. Il est l'enjeu de la création. Parce que S'il n'y a pas l'homme, la création n'aurait pas de sens. Donc c'est l'homme qui donne sens à cette création. Que serait en effet la création sans l'homme? La nature ne peut exister que par l'histoire de l'homme, de sa liberté, et le travail responsable de l'homme pour l'accomplir et pour la dominer. Alors, toute la Bible, c'est justement ce cœur où Dieu s'est séparé de l'homme. D'ailleurs, on dit créer, je crois qu'en hébreu aussi, j'ai lu ça, qu'il a expulsé l'homme hors de lui. Comme il expulse l'enfant hors de lui. Expulser, ça veut dire lui donner son autonomie. Ça veut dire que maintenant, il va y avoir entre Dieu et l'homme un face à face. Comme lorsqu'un enfant meurt, il sort de sa mère, il y a quelqu'un qui est en face. Et l'image de la Bible, c'est justement cela. C'est cette expulsion de l'homme qui fait que maintenant, il est dans un face à face. Et sans ce face à face, sans que l'autre soit autre, il n'y a pas d'alliance. C'est pour cela que l'alliance est au cœur de la création. Et il y a le risque. La liberté, c'est le risque. Parce que faire alliance, ça veut dire quoi? C'est deux libertés qui se rencontrent. La liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Faire alliance, c'est quoi? C'est la confiance que Dieu fait en l'homme, et Dieu sait si lui, sa confiance ne vaut jamais, et c'est la confiance que l'homme est appelé à faire en Dieu. Alors c'est cela, le mystère de cette alliance dans la Bible, qui est le fondement de l'histoire de l'humanité. Et là, nous voyons que la Bible nous ouvre sur le risque. Et ce risque, nous le voyons dès le point de départ. Il demande à l'homme de dominer la terre et qu'il la transforme. Et la domination ne se fait pas dans la Bible, et on verra après pour Dieu, à propos justement du déluge, ne se fait pas en termes de puissance. Car l'humain dans la création se trouve entre domination et maîtrise. Maîtrise de la création ne veut pas dire domination. Et c'est là où il y a le risque. C'est là où rentre justement, déjà dans le point de départ, l'interdit du jardin d'Éden, qui mange de tous les fruits, sauf de l'arbre du bien et du mal. Oui, bien sûr. Tout est à toi là-dedans. Mais pas tout. C'est-à-dire, l'essentiel de la création, c'est de manger de tout, mais pas de tout manger. C'est-à-dire de détruire. Et là, c'est ce risque qui va commencer, d'ailleurs, dans l'épisode d'Adam et Ève. Et ce fruit défendu, c'est justement l'interdit qui construit la liberté. Car s'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire, si on ne balise pas le vrai chemin pour la construction de l'homme et de sa liberté. D'ailleurs, tous les psychologues le disent, un enfant qui n'a pas connu l'interdit ne saura jamais ce qu'est être libre. Mais, donc ça, c'est l'interdit qui construit la liberté. Et puis ensuite, nous voyons alors que l'humanité rentre, et pas trop dire, dans l'histoire de meurtre. Elle commence par une histoire de meurtre. C'est Caïn qui tue Abel. Cette histoire de meurtre, là aussi, nous éclaire fortement. On pourrait dire, au commencement était le meurtre. C'est, à ce moment-là, fait partie, justement, de cette origine de l'humanité, où ce meurtre, justement, a fait partie de l'histoire. Il ne faut pas le cacher pour qu'on s'en rende compte. Le meurtre est au cœur de l'histoire. Et la mort, c'est quoi? C'est détruire la vie. La mort, c'est détruire l'homme. Et nous voyons là que Cain tue Abel, il ne reste plus que Cain. Et comment la Bible nous montre? Elle nous montre la descendance de Cain, que le monde continue toujours, et la descendance de Cain, si vous voyez dans la Bible, c'est la culture et les civilisations. C'est lui et sa descendance qui firent les villes, la culture. Si vous lisez le chapitre 4, 17, verset 17 de la Bible, Cain se met à construire une ville et appelle la ville du nom de son fils Enoch. Et la ville est le phénomène justement de la civilisation qui va se construire dans la violence et dans le meurtre. Elle fonctionne justement dans le meurtre. Et puis même, ça va très loin, même la culture, puisque la fille de Cain sera Sila, enfante la guitare. Et puis nous voyons Sila qui enfante Tébalcain, l'ancêtre de tous les forgerons. Ça veut dire aussi que nous sommes là devant une histoire dans laquelle l'homme est en train de se détruire tout en construisant l'humanité, en construisant le monde, et construit le monde à sa façon. L'homme est appelé pour achever le monde, et c'était le thème qu'on avait pris avec la pasteur Florence Truman, hein. L'homme est appelé à achever la création pour s'achever lui-même. Mais là, voilà que l'homme est en train de faire la création, de travailler dans la création, et il se détruit lui-même en achevant cette création. Voilà toute la question. Et vous voyez que c'est bien des questions qui sont toujours actuelles. On peut toujours revenir à la Bible sur ces questions-là. Alors, donc là, ça fonctionne sur le meurtre et ça n'a rien d'avenir. Il n'y a aucun avenir. C'est un avenir bouché. Et donc, il n'y a pas d'espérance en ce monde. Et qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, elle n'a plus qu'à le cadre hein, comme fils. Le meurtrier. Alors, Dieu va en demander un autre. Et elle aura le troisième fils d'Adam qui s'appelle Seth. On oublie qu'Adam avait trois fils. Voilà. Qui s'appelle Seth. Et là va commencer la lignée de Seth. Dont le fils Enoch aussi, et qui sera la lignée dans la Bible des 10 ancêtres de Noé. Et donc, sont les héritiers et la bénédiction divine, c'est-à-dire on va entrer maintenant dans cette humanité avec une loi nouvelle, une généalogie nouvelle qui va être celle de l'alliance. Alors, cela veut dire qu'il y a dans le monde une première création et qu'ensuite, il y a une seconde qui est pour une transformation de ce monde. Et un germe qui est là pour, justement, c'est la vie qui va triompher. Sinon, on reste dans un germe qui ne peut que s'enfermer dans la mort. Et là, nous voyons alors dans cette généalogie, la Mecque, la généalogie de Noé, hein, les 10, la mec qui engendre Noé. Voilà. Et Noé, ça veut dire quoi? Noé, ça veut dire le repos. Et le Père, il dit, ce fils sera mon repos. Le repos, dans la Bible, pour qu'on soit clair aussi, hein, quand Dieu se repose, il chauffe, il se repose, il se retire. Le repos, ça ne veut pas dire une autre épargne. Le repos, ça veut dire le plein épanouissement, la réussite, l'épanouissement de l'âme. D'ailleurs, je crois que dans toute la tradition hébraïque, le sabbat, le septième jour, c'est le jour du repos, c'est pas où l'on ne fait rien, c'est le jour de l'épanouissement et de la réussite. D'ailleurs, dans le récit de la création, le septième jour, c'est le jour du sabbat, hein, qui est justement le jour de la liberté, qui est justement le jour où l'homme, qui est appelé à achever la création sans se détruire lui-même, mais qui s'achève lui-même en achevant la création. Il ne peut s'achever qu'en achevant la création. Voilà. Alors, là, le monde dans lequel va vivre Noé, et bien Noé, c'est un monde qui est plein de violence. Et là, il y aura cet anthropomorphisme. On est obligé de présenter Dieu avec un certain anthropomorphisme. On lui passe des sentiments qui sont les nôtres. Et on le représente comme ça. Comme dans le deuxième récit de la création, c'est le Dieu potier, qui façonne l'homme avec l'argile, avec toute la passion du potier pour son vase. Et ça va être dans une tradition biblique, ça, comme l'argile dans les mains du potier, etc. C'est une image, vous n'allez pas dire que Dieu est un potier. Mais c'est une métaphore qui nous parle et qui signifie justement comment Dieu nous appelle à la vie de cette terre, de l'argile dont nous sommes tirés et son souffle qui nous fait vivre. Alors, là, ce monde est plein de violence. Et Dieu, en programmant ce monde, il se dit, encore là, c'est une manière anthropomorphique des choses. Il se dit, est-ce que je vais bien faire cette création? Ça a l'air de mal marcher, cette création que j'ai faite. C'est comme posait aussi dans les Midrashs des questions qui disaient, est-ce que Dieu a bien fait de faire l'homme? C'est des questions qui font ça, qui nous viennent. Alors là, on se dit, cette terre pleine de violence, je vais presque dire que Dieu regrette d'avoir fait ce monde. Je crois que c'est présenté comme ça. Voilà. Alors, il décide, le grand déluge, par comparaison au récit d'ailleurs des déluges de Madèche, etc. Et là, il se dit, mais il y a quand même un juste là-dedans. Un seul juste, Noé. Est-ce que je vais détruire le monde s'il y a un seul juste? Un. Eh bien non. Pour ce seul juste, le monde continuera. Et ça, ça va être un thème qui va être très porteur dans toute l'histoire d'Israël. Et en particulier, quand Israël sera en exil. Parce qu'en exil, va se poser des questions. Quand on était en Égypte, on était au moins un peuple, on était costaud pour s'affronter au pharaon. Et on pouvait, en ce moment-là, par la force, sortir d'Égypte et nous libérer. Mais ici, en exil, est-ce qu'on est encore un peuple? On est dispersé, l'un est là-bas, l'autre là-bas, on ne sait plus. Voilà. Et où est encore, Et là, c'est la fameuse, le thème biblique du petit reste, que les prophètes vont toujours dire, s'il n'y a qu'un petit reste, l'espérance de Dieu est au cœur de ce monde. Et là, s'il n'y a qu'un seul juste, eh bien, l'espérance de Dieu est au cœur de ce monde. S'il n'y a qu'un seul homme qui croit, l'espérance de Dieu est là. L'histoire de Noé, le récit de Noé, va tenir une place importante dans l'espérance d'Israël. Et on a toujours besoin de le retrouver, ça. C'est toujours actuel. Donc Dieu décide de sauver. Les eaux qui tombent, je vous laisse le récit que vous connaissez bien. La colombe qui est envoyée, etc. Mais à l'arche. Alors l'arche est important parce que ce qui me semble assez intéressant dans le récit de l'arche, parce qu'il y a l'arche de Noé et l'arche d'alliance. Il y a le coffre qui concerne l'humanité et la création dans l'arche de Noé. Il y a l'arche d'alliance, après le coffre aussi, où il y a les tables de la mer. Donc, l'arche de Noé signifie justement le salut de l'humanité, l'alliance déjà que Dieu fait avec l'humanité. Une humanité qui ne sera pas détruite. Et le récit du déluge est une recréation du monde, un nouveau récit de la création. Une création qui maintenant va reprendre un chemin nouveau. Un monde de violence où Dieu va se révéler qu'il est contre cette violence, et puis en même temps aussi qui prépare l'avenir. Et là, c'est important, parce qu'après on verra que l'alliance avec Noé va préparer l'alliance avec Abraham, mais déjà Dieu fait ce salut avec. Quand Noé construit l'arche, il y a Dieu avec lui. D'ailleurs, Dieu lui dit comment on peut le faire. Hein. Voilà. On fait un travail ensemble hein, dans la construction de l'arche. Ça veut dire que là, il y a une synergie dans cette création et dans ce salut entre Dieu et l'homme. Voilà. Évidemment, Noé n'a pas encore pris dans la Bible la dimension de la responsabilité qu'aura Abraham. Et puis Noé, il vit avec Dieu, il est là. Tandis qu'Abraham, il marche devant Dieu. Abraham, marchant devant Dieu, ça veut dire il ouvre l'avenir. Tandis que là, ben, il va vivre le salut avec eux, avec Dieu. Alors, là, nous voyons qu'en effet, c'est toute la création qui reprend. Hein. Il y a toutes les espèces dans l'arche. Grâce à cet art justement construit sur les plans divins, donc tous les hommes, maintenant, en vrai, sont descendants de Noé, puisque l'humanité est détruite, hein. Il n'y a plus de Noé, hein. Il n'y a plus qu'un, hein. Il n'y a plus les descendants de Cain, il n'y a plus que Noé. Alors c'est une humanité nouvelle qui va naître. Et avec donc le genre humain, tout entier, et avec toute la totalité des nations. Car il faut bien dire que l'alliance qui va se faire maintenant avec Noé, c'est toutes les générations, c'est la nature elle-même, c'est tous les êtres vivants qui sont allés dans l'arche et qui font partie de cette alliance. Rien n'est maudit, et l'homme vit maintenant appelé à vivre sa domination comme puissance de vie. Alors, construire l'arche avec Dieu, c'est sauver la vie et c'est sauver justement l'avenir de l'humanité. Et là, que voyons-nous? Bien, nous voyons d'abord que Dieu, maintenant, ne veut plus maudire le sol à cause de l'homme. Parce que l'objet, il ne va pas le faire à cause que l'objet des pensées du cœur humain est le mal dès sa jeunesse en l'homme. Hein. Il dit bien, je ne recommencerai plus à frapper tous les vivants comme je l'ai fait. Et là, c'est une seconde création. Mais là, elle n'est pas sortie des mains de Dieu. Elle vient de l'homme. Et c'est une création blessée. Et cette création blessée n'a pas fait créer la violence. Ça ne veut pas dire que la violence n'existera plus, hein, au contraire, il fallait toute la Bible, hein, toute l'histoire. Et ça veut dire que cela est intégré dans une alliance. Hein. Et Dieu cherche à contenir cette violence par l'interdit du sang et du meurtre. Hein, c'est ce qui est écrit, ce qu'il dit à Noé. Hein. Et là, il rend Noé que c'est le même interdit d'ailleurs. Hein. Le sens, ça veut dire t'es pas maître jusqu'au bout. Hein. Que ta domination n'aille pas détruire la vie. Puisque le sang, dans toute la Bible, le sang, c'est le principe vital. Donc toucher au sang, c'est toucher au principe vital. Donc il ne faut pas toucher au fondement de la vie. Voilà. Et c'est là l'interdit. Hein. Voilà. Tu vas vivre la domination, mais plus de la même façon maintenant, cette domination, qui va la vivre dans le respect profond de la vie. Et là, cette puissance sera la voie offerte à l'homme qui est image et ressemblance de Dieu. Et là, ils vont découvrir ce Dieu qui a fait le déluge. C'est l'image, hein, c'est comment les hommes interprètent les anthropomorphismes. C'est le Dieu qui donnera comme signe de l'alliance arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'arc-en-ciel? Ben, ça veut dire que Dieu a déposé les armes. Que l'arc qui tue, ben non, il l'a plus dans sa main, Dieu. Il est là dans le ciel. Voilà. Il est là en dehors. Et donc, Dieu a déposé les armes. Et là, ça veut dire donc que le respect de la vie humaine, ne pas verser le sang de l'homme, image de Dieu, c'est l'exigence profonde de cette alliance. Le respect de la personne. Mais plus que cela encore, c'est la responsabilité de l'homme pour l'homme. Je demanderai compte à l'homme pour l'homme. C'est bien écrit dans cette alliance. Donc c'est l'homme qui devient responsable de son frère. C'est le contraire de Cain, vous voyez. Quand Dieu lui dit, qu'as-tu fait de ton frère? Vous vous souvenez? Cain répond, suis-je le gardien de mon frère? Là, au contraire, là, tu vas être celui qui a... l'homme répondra pour l'homme. Voilà. Tu deviens responsable. Toute alliance nous conduit à la responsabilité, hein, puisque l'appel de Dieu... C'est clair, c'est la liberté toujours liée à la responsabilité. Nous sommes bien clairs aussi qu'une liberté sans responsabilité n'est pas la liberté. C'est du libertinage. La liberté suppose toujours un projet, et là, c'est ce projet que Dieu prépare avec l'homme dans cette humanité. Et là, bien, Dieu va quand même continuer la création, mais une création où la violence n'est pas extirpée encore. Il y aura toujours de la violence. Mais on contemplera maintenant un Dieu qui a déposé les armes. Et Noé est celui qui va faire cette alliance. Avec cette différence, c'est avec Abraham où il y aura le plus la conscience de la responsabilité. On ne va pas Noé intercéder pour qu'il n'y ait pas de déluge. Abraham, lui, va intercéder auprès de Dieu pour Sodome, pour ce Sodome. Ça veut dire qu'il vit cette responsabilité. Alors là, c'est-à-dire, on ouvre l'avenir, qui est l'avenir que Dieu donne au cœur de cette humanité de violence. Parce que je distingue bien le futur et l'avenir, hein. Le futur, c'est ce que nous préparons, nous. Ça nous dépasse aussi, le futur. C'est ce que nous construisons. L'avenir, c'est advenir, c'est Dieu qui vient. Et dans la Bible, Dieu est toujours celui qui vient. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Qui ne cesse de venir. Et donc l'avenir ouvre sur Dieu, sur ce Dieu qui vient. Tandis que le futur, il est encore enfermé dans nos perspectives. Et on peut faire un futur qui n'a plus d'avenir. C'est bien, je crois que c'est un ancien ministre de l'Affaires étrangères, Flaubert, c'est vieux ça, qui avait écrit un livre, L'avenir du futur. Le futur qu'on prépare, quel avenir? Voilà. Et là, cette alliance nous ouvre sur l'avenir, avec les autres alliances qui vont se préparer, mais dont nous parlerons par la suite. Alors, c'est la promesse de Dieu qui sera au cœur de tout. Bien, dans tout ce que va vivre Israël, d'ailleurs, et quand il sera en exil, quand il croira que tout est fini maintenant, comment ça se fait, quoi, hein, les prophètes vont rappeler continuellement cette promesse, cet avenir. Attention, les prophètes, ce n'est pas ceux qui prédisent le futur. Hein. Ce n'est pas les devins, les prophètes. Les prophètes, ce n'est pas ils n'ont rien vu du futur. Ah, mais ils ont vu l'avenir. Ils ont lu la promesse de Dieu au cœur de toute l'histoire et des réalités de l'histoire. Et là où ça va mal, le prophète Isaïe dit, ah, mais pourquoi ? Mais ne voyez-vous pas que je suis en train de faire un monde nouveau ? Les prophètes, c'est ceux qui voient au cœur de l'histoire l'enfantement d'un monde. Car là, on va aller même avec toute une conception du jugement de Dieu. Quand on parle de fin du monde, que ça veut dire ? Alors Dieu va détruire le monde. Il n'y a pas de fin du monde. Il y a la fin d'un monde. C'est pas la même chose. C'est la fin du monde du meurtre. C'est la fin du monde de la mort. Et c'est pour cela que nous voyons toujours dans ces récits la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais le fond c'est très important, et nos frères juifs peuvent mieux en parler que moi. Hein. Ça veut dire le signe de l'alliance que je vis avec Dieu au cœur de toute ma vie et de toute la création. La bénédiction, c'est pas appeler Dieu pour qu'il protège la voiture et qu'il devienne une assurance incendie. La bénédiction, ça veut dire ma rapport avec la voiture, je la vis dans une alliance avec Dieu. Et je la vis en homme responsable. Donc, je la vis, et là, on a besoin encore de conversion à faire là-dessus. Hein. Alors, là, nous voyons que nous sommes tournés vers l'avenir et que ce qui est fondamental, c'est la foi dans la promesse. Quoi qu'il puisse arriver, celui qui vit de la Bible, la parole de Dieu, juif, chrétien ou autre, s'il vit de cette parole, s'il vit de cette foi, il est dans la promesse de Dieu, qui s'appelle l'espérance. Et l'espérance, comme dira saint Paul, qui ne nous trompe pas. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dit-il, par l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est cela la forme de cette espérance. Et cette espérance, bien loin de démobiliser par rapport aux tâches terrestres, bien loin, puisque l'homme est fait pour achever la création, mais elle devient l'énergie et le sens de toutes les tâches terrestres que nous faisons. Une foi qui est loin d'être pieuse, hein, une foi qui est loin d'être l'évasion du monde. La foi biblique est toujours en lien profond de l'homme avec la création. C'est une création achevée, à travailler. Un monde à construire. Et un monde à construire à travers cette espérance de Dieu. Et c'est là que la foi noachique, c'est-à-dire la foi de Noé, va envelopper toutes les autres alliances par-delà. Une alliance qui est universelle, une alliance qui est pour toute la création, une alliance qui est pour la réussite de l'homme et de tous les hommes, quels qu'ils soient. Et que, d'ailleurs avec Abraham, ça va commencer comme ça aussi, puisque Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre, hein, c'est la continuation. Si bien que je voulais dire que l'alliance de Noé, c'est un peu, là je prends une image que prenne un théologien jésuite que j'aime beaucoup, le père Gamme, qui dit que c'est un peu comme le fruit, la fleur et le fruit. Le fruit est impliqué dans la fleur, il n'est pourtant pas encore dans la fleur. Et l'implication n'est jamais statique, mais dynamique. Le fruit est impliqué dans la fleur parce que la fleur tend vers le fruit. Elle ne peut comprendre la fleur qu'à partir du fruit. Donc là, ça veut dire que l'alliance de Noé, c'est la fleur qui va engendrer toutes les autres alliances et qui donneront à l'alliance toute la dimension universelle de toute la création et de tous les hommes. Alors là, je passe un peu par-dessus, parce qu'il y a beaucoup de discussions qui sont faites Et là, je passe dans un numéro de sens. J'ai trouvé là un numéro très intéressant qui est apparu en mars. C'est André Leher et l'anarchisme. C'est qui était le Noachim dans la doctrine de Maharal. Et là, c'est intéressant, parce qu'on sent vous dire, parce que les lois de Noé, de l'alliance avec Noé, hein, est-ce que c'est la loi naturelle, ou est-ce que c'est déjà la loi de Dieu? C'est-à-dire, c'est la loi que tous les hommes sont appelés à vivre, d'abord. Hein. C'est pas encore la loi révélée, la loi donnée. C'est la loi que tous les hommes et toute l'humanité est appelée à vivre, puisque Dieu travaille dans tout le cœur des hommes. Et là, c'est cette ouverture. Alors ensuite, bien sûr, il y a cette connaissance qui viendra par le décalogue, par Dieu qui donne la loi pour qu'on l'applique. Mais là, il y a beaucoup de discussions, même Maïmonide et autres discutent là-dessus. Mais il reste quand même que dans la Bible, c'est quand même clair, on voit que les non-juifs vivent déjà cette vie avec Dieu, cette vie de la loi du Seigneur. Souvenez-vous de Naaman lépreux, souvenez-vous de la veuve de Sarepta, et c'est pas pour rien que le Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte pour nous, hein, 50 jours après Pâques, il y a dans le récit de Shavuot, qui est aussi la fête de la Torah, hein, et qu'on lit le rouleau de Ruth, la Moabite, qui n'est pas juive. Et c'est là, c'est pas pour rien d'ailleurs, pour ça, pour nous, ça correspond à la Pentecôte, hein, l'ouverture à tous les peuples. Voilà. Et Ruth la Moabite sera même l'ancêtre du roi David. Vous vous rendez compte? Ça veut dire là que la loi noachique est déjà au cœur de l'humanité, elle doit s'épanouir dans la loi que Dieu révèle, comme tout à l'heure, la comparaison que je vous ai donnée. De la fleur et du fruit. Voilà. Alors là, nous voyons Noé sort de l'arche. Et là, Noé, vous savez, a les trois fils, Sem, qui sera la lignée des Sémites, Cam, qui veut dire chaud d'ailleurs, c'est l'homme qui est impulsif, débordant de pulsions, qui sera le père de Canaan, et puis Yafet, qui veut dire le beau, c'est le père un peu de la Grèce et de l'Occident, de belle civilisation. Voilà comment la Bible le présente. Et c'est à partir desquels que va se diversifier l'humanité. Je n'ai pas le temps d'ailleurs d'en parler ce soir, mais après le récit de Noé, et les fils de Noé, il y a la tour de Babel. Et la tour de Babel, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tous dans une tour, parlant la même langue, une humanité figée, une unité qui est fausse, une tour c'est sur un même terrain, et à ce moment-là, Dieu se met en colère. Il vous dit ça, mais cette malédiction, c'est une bénédiction. Il disperse, il détruit la tour, et les hommes sont dispersés à travers la terre. Et fait la confusion des langues. Parce qu'il ne veut pas qu'il n'y ait qu'une seule culture. Hein. S'il n'y a qu'une seule langue, il n'y a qu'une seule culture. C'est l'unité du totalitarisme. Et Dieu ne veut pas cette unité du totalitarisme. Hein. Donc ça veut dire que s'il n'y a aucun espace géographique qui est restreint, c'est toute l'humanité, toute la richesse de la création que l'homme doit découvrir. Voilà. Alors là, nous voyons en effet que c'est à partir des fils de Noé, comme le présente la Bible, que va se diversifier l'humanité. Et alors là, quelque chose qui va apparaître, c'est que Noé descend d'arche, en bon cultivateur, il semble que c'est l'homme de la terre, il va planter la vigne. Là, il y a la vigne. Donc, soyons bien clairs. On n'est pas là dans la Bible pour dire que Noé était l'inventeur de la vigne. et que nous devons notre bon vin grâce à Noé. C'est pas ça. Voilà. Ça veut dire, la vigne, c'est tout un symbole dans l'histoire d'Israël. À tel point qu'un jour, on dira, Israël, c'est la vigne. Et Dieu, c'est le vigneron. Et Jésus dira la même chose. Je suis la vigne, et vous êtes le vigneron. Et mon Père est le vigneron. Donc, la vigne, c'est la terre d'Israël, qui est comparée d'ailleurs par Osée, à une vigne fertile. Et ce sera toujours l'image de Dieu qui cultive sa vigne, son peuple d'Israël, avec la passion du vigneron pour sa vigne. Moi, j'avais un grand-père qui était passionné pour sa vigne. Quand il faisait du bon vin, ça comptait, hein, c'était important. Eh bien, en Israël, il y avait tout ça. Et là, on va retrouver Dieu, le vigneron, hein, passionné pour sa vigne, et qui va travailler dans cette vigne pour qu'elle porte le maximum de fruits. Alors, il rentre dans la vigne du Seigneur. Mais ce passage-là aussi, et là j'ai trouvé un peu l'explication dans Connaissez le livre, les 10 commandements de Marc Alain Ouattine, hein, bien sûr, qui à la fin essaye d'expliquer ce fameux passage qui nous choque un peu. Hein. C'est que nous, il s'enivre, pas moi qui bois du bon vin, c'est bien, mais c'est qu'il était tout nu, voilà, sous la tente. Et là, il y a toute l'explication, c'est pas pour rien que ce texte a été mis. Hein. Cain découvre la nudité de son corps. Et au lieu de sortir et de fermer la porte, au contraire, il sort et appelle ses frères pour qu'ils le voient. Qu'est-ce que ça veut dire la nudité? La nudité c'est le sexe, la nudité c'est... Hein. Donc ça veut dire que c'est le mépris des origines. Et même Joachim dit que nudité, avec l'hébreu, ça veut dire aussi inceste. Hein. Et l'inceste c'est quoi? C'est la confusion. Quand il y a l'inceste, c'est la confusion du père et du fils. C'est la confusion des fonctions. Voilà. Alors à ce moment-là, on ne reconnaît plus réellement le père. Mais les frères, eux, rentrent tournés en portant le drap. Hein. Ils ne regardent pas leur père et ils le couvrent. Voilà. Et là, nous voyons, c'est intéressant, que ce dévoilement-là, ça veut dire que l'on veut aller vers les origines, je l'explique comme ça, mais j'ai vu deux explications, la même chose, qu'on s'enferme dans son origine, donc on s'enferme à l'ouverture, et qu'on s'enferme à l'écart entre les générations. Il n'y a plus d'écart en ce moment-là, quand il y a l'inceste, hein? Il n'y a plus d'écart entre les générations. Or, la Bible, quand elle parle de Dieu dans l'histoire, elle parle de génération en génération. Ça veut dire c'est le dynamisme de la création. Et ça, c'est dans le premier, même dans la Genèse, hein, dans la création de l'homme et de la femme. Souvent, pour les mariages, je cite ce passage qui fait beaucoup réfléchir. Déjà là, qu'on avait écrit ça à l'époque. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux ne deviendront pas. Bien sûr, le père à la mère, c'est les origines, c'est la génération. Mais il y a coupure. C'est-à-dire, tu ne reproduis pas un modèle, simplement. Tu as la source, que sont tes parents, mais ensuite, c'est toi qui vas devenir créateur. Et avec l'homme et la femme, c'est une création nouvelle qui est appelée à faire. Et toute l'histoire sainte, c'est l'histoire d'une création toujours renouvelée. C'est une création qui ne se fiche pas. C'est une création en marche. Et le peuple des croyants, de génération en génération, c'est un peuple qui continue d'aller vers son avenir. Voilà, ça me semble important. J'ai trouvé cette explication qui me semble assez intéressante et qui nous interroge en profondeur. C'est-à-dire que chaque époque est créée en français. On ne reproduit pas des modèles dans la Bible. On a des témoins qui nous rappellent ensuite à prendre nos responsabilités et à construire et à être créateurs à l'image de Dieu. Et alors là, il y a donc la malédiction qui va tomber sur Cam, bien sûr. Et Cam sera celui qui a pris plaisir à découvrir la nudité de son père, celui qui n'a plus sens de ses origines, celui-là sera, son fils d'ailleurs, hein, sera donc celui qui habita la terre de Canaan, hein, qui était considéré comme une terre maudite. Je vais expliquer la malédiction de Dieu, ce que ça veut dire. Hein. En revanche, on ne sait pas quelqu'un qui condamne à définitivement, c'est celui qui dit attention. Hein, la bénédiction, c'est bien dire, ça, c'est vraiment dans le sens de la vie. La malédiction, c'est dire, ce n'est pas dans le sens de la vie. Et là, je m'assure que tout ce qui n'est pas dans le sens de la vie. Alors, à ce moment-là, il va y avoir un déplacement de la malédiction, puisque la terre de Canaan va devenir la terre promise. Ce qui veut dire, pour moi j'interprète comme ça, mais, hein, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme historique. C'est que l'histoire n'est pas figée. Rien n'est déterminé dans l'histoire. Elle dépend de la liberté, de la responsabilité de l'homme et de Dieu qui chemine avec l'homme pour réveiller continuellement. Et voilà que la terre maudite devient la terre promise. Moi, ça me frappe beaucoup. Comment les choses ne sont pas dans une histoire figée, mais dans une histoire en devenir, dans une histoire qui se renouvelle souvent. Alors, nous sommes là dans l'histoire qui est la nôtre. Notre époque, je dis souvent, c'est la plus belle, celle que nous sommes en train de vivre, parce qu'on n'a pas d'autre à vivre. C'est prendre au sérieux notre propre histoire. C'est prendre au sérieux notre époque, et c'est cela, la Bible. Et chaque époque est l'époque de création pour celui qui vit l'alliance avec Dieu. Je terminerai sur deux choses. C'est que on aura de la peine quand même, hein, à accepter cet arc-en-ciel de Dieu qui a déposé l'arme, de Dieu qui sera jamais plus jamais le Dieu de la violence et de l'intervention. Ça va être dur, ça. C'est encore dur maintenant. C'est difficile d'accepter un Dieu dont la puissance et la toute-puissance n'est pas domination. Mais Dieu est le seul qui vit la puissance sans domination. Or, ce sera un grand travail, parce que même dans les récits bibliques qui viendront, nous aurons des images de Dieu encore marquées par une certaine violence. On est dans un camp contre l'autre. Et Dieu accepte des lieux comme ça, hein, ça, c'est comme les lieux par la main, c'est ça. Et là, nous n'en sommes pas encore dégagés de ça. Du Dieu de la violence. Vous voyez, quand j'entendais, pour le 50e anniversaire de l'armistice de 2018, une haute autorité religieuse parlant de la victoire, qui disait, cette victoire, nous la devons au courage de nos armées, nous la devons à nos alliés, nous la devons surtout au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes encore là. Vous comprenez? Nous avons de la peine à nous dégager de cela. Du Dieu de la révélation que nous revenons toujours au Dieu idolâtrique. Et même dans la Bible, quand Israël luttait contre les Philistins, qu'est-ce qu'il fait? Son vieux réflexe. Il va prendre l'arche d'alliance, il va le mettre en tête et on va gagner la victoire sur les Philistins. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est que les Philistins emportent l'arche. Hein? Quand c'est la défaite, ils sont emmenés en déportation. Et ça veut dire qu'on est tous marqués par cela. Quand je vois qu'on fait des actes votaux ou des chapelles pour remercier Dieu ou la Vierge, parce qu'il y avait des bombes qui devaient tomber, hein, qui étaient prévues sur tel lieu, ils ne sont pas tombés sur le lieu, on érige hein, une chapelle de remerciement, et les bombes sont tombées sur la paroisse à côté. Mais, vous savez, nous avons de la peine à sortir de cela, hein, à ne pas mettre que Dieu dans notre camp. Et ça veut dire que Dieu qui disait « Regardez l'arc-en-ciel », vous y penserez à ça. Hein. Quand vous serez dans la violence, « Regardez l'arc-en-ciel », c'est mon signe, c'est le signe de l'Alliance. Ça veut dire que j'ai déposé les armes. Mais nous avons de la peine à nous rentrer dans le dynamisme d'amour d'un Dieu qui a, qui dépose les armes. Et puis, je termine par là, vite. Toutes les alliances se terminent par un sacrifice. Et aussi, dans les sacrifices païens, hein, dans l'histoire du déluge de Babylone, pardon. Eh bien, ça veut dire aussi le sacrifice hébreu n'est pas le même que le sacrifice païen. Le sacrifice des autres religions, c'était qu'on fasse monter vers Dieu le sacrifice pour que Dieu apaise, attire sa bienveillance sur nous. Le marin grec, quand il partait en mer, ben, il priait Neptune, le dieu de la mer, pour qu'il n'y ait pas de tempête. Hein. On n'avait pas beaucoup d'études à l'époque hein, sur la météorologie. On n'allait pas sortir encore, d'ailleurs. Hein. Donc, le sacrifice dans la Bible, c'est le sacrifice d'alliance. Ça veut dire qu'on signifie l'engagement de Dieu avec l'homme et l'homme avec Dieu, cette alliance qui doit conduire toute notre vie. Et puis, voilà. Et là, je dirais que je terminerai par deux textes qui vont jusqu'au bout de ce que dit cette alliance avec Noé dans un monde de violence. S'il est tiré du prophète Osée, lorsqu'il dit je termine par ça hein, parce que je le trouve très beau et je vois qu'il résume un peu tout ce que Dieu veut réaliser à travers cette alliance avec le Noé. Du prophète Osée chapitre 11 verset 1 à 9. Parole du Seigneur, j'ai aimé Israël dès son enfance et pour le faire sortir d'Égypte j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours, je le guidais avec humanité par des liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Voilà un peu le texte du prophète Osée qui donne un peu tout le résumé de l'alliance avec Dieu.
Merci beaucoup, Père Barcellini. Je crois qu'on avait besoin tous d'entendre cela. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait un bien fou. C'est le sentiment, d'abord, j'aurais souhaité que vous continuiez, mais pas. Mais c'est le sentiment de descendre profondément en nous, d'aller dans nos fondements, vraiment, d'homme, d'être humain. Et cette alliance, la façon dont vous amenez cela et dont vous ne l'avez pas expliqué parce que c'est au-delà de l'explication. Vous nous avez fait un cadeau en nous donnant ce commentaire. Vraiment. Parce que oui, c'est l'alliance universelle. Elle est pour tous les hommes.
C'est l'alliance universelle et qui va être au cœur de chaque homme et au plus profond de l'homme. D'ailleurs, si on va dans on progressera cette année dans l'alliance, et quand on arrive avec les prophètes, on dirait je mettrai la loi au-dedans de leur cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau et un cœur nouveau. Donc l'alliance n'est pas simplement les forces de violence avec Noé, mais c'est l'acheminement vers un homme nouveau. C'est ça.
J'avais eu l'occasion de lire le livre d'Elie Benamosek, qui est un rabbin qui était à l'époque à Livourne, un Italien très très moderne, parce que je crois que c'était Jeannette, on avait vu ça ensemble, qui m'avait fait connaître ce livre avec Aimé Palière, et il avait dit, ce rabbin, s'il restait une seule religion, enfin, voyez le mot religion dans religiare et de relier, c'est la religion noachide. Ce sont les sept lois données à Noé. On ne parlait plus du monde juif, on ne parlait plus du monde chrétien, et c'était vraiment l'universalisme, mais au sens très large et non pas une tour de Babel, n'est-ce pas? Merci, et là, les questions, j'espère, n'est-ce pas, que vous allez vous exprimer et pouvoir continuer à ouvrir ce débat.
Bon, merci, mon cher frère. On a parlé d'idolâtrie. Et alors, est-ce que c'est la partie faible de la foi, ce risque de confusion entre la foi et l'idolâtrie? On a l'impression que très vite, une dynamique de foi peut basculer dans l'idolâtrie. On est comme sur un chemin de crête. Ça paraît évident. Là, maintenant, dans la réflexion, dans le calme, de bien faire la différence entre la foi et l'idolâtrie. Mais si on ne fait pas attention, dans une dynamique de foi, on peut très vite idolâtrer. Donc ma question, c'est quels sont les multiples garde-fous pour que notre foi au quotidien ne tombe pas dans le piège des idolâtries.
Mais vous avez raison, parce que l'idolâtrie, c'est le fondement un peu de l'homme, hein, il est tourné, d'ailleurs dans la Bible, on voit, hein. Le combat de Dieu, c'est contre l'homme idolâtre et contre les idoles. Quel est le signe? C'est qu'on se tourne vers les idoles, en n'assumant pas sa responsabilité d'homme. Les idoles, c'est quoi? C'est l'immédiateté. Dieu essaye de conduire son peuple dans la liberté et la responsabilité. Mais la liberté, on la désire. En même temps, on en a peur. On en a peur parce que la liberté est liée à la responsabilité. Donc on préfère se tourner vers un certain conformisme qui n'engage pas notre responsabilité. Et les idoles viennent justement de tout ce sentiment religieux qui est le besoin total de sécurité, sans responsabilité. Et que les idoles sont l'immédiateté. On demande à Dieu immédiatement. Hein. Il n'y a plus de médiation humaine. Il n'y a plus de responsabilité, de respect de l'homme dans son cheminement. Dans les idoles, on n'accepte pas le temps, la maturité du temps et de l'histoire. En la Bible, c'est la maturation du temps et de l'histoire. Hein. Souvenez-vous ce que Dieu disait à Job. Hein. Ce monde n'est pas fini encore. Tu le voudrais déjà terminé. Alors, il me semble que l'idolâtrie se marque dans un religieux qui est démission de l'homme. C'est un religieux qui constitue l'homme irresponsable. Et je vais même très loin. On peut faire une confiance dans une idole qui va résoudre nos problèmes, mais sans engager notre propre responsabilité. Or, vous voyez que dans la Bible, ce qui est centre, c'est l'homme. Dans l'alliance avec Noé, je demanderai compte à l'homme pour l'homme. Et pour moi, tout religieux qui ne nous fait pas plus homme, qui n'accomplit pas plus notre humanité, qui est dans le projet de Dieu, c'est un faux religieux. Il ne faut jamais oublier que le premier appel de Dieu à l'homme, c'est l'appel à la responsabilité, et on peut être responsable que si on est des hommes libres. Je crois que c'est tout le projet de Dieu, ça. D'ailleurs, si vous prenez la sortie d'Égypte, c'est une libération, hein, la sortie d'Égypte. On était esclaves en Égypte, on était esclaves du Pharaon. On s'oppose au Pharaon pour la libération du peuple. La libération ne veut pas dire encore la liberté. Vous avez combien de libérations qui retombent dans de nouveaux esclavages? Et toute l'histoire du désert, c'est justement détacher les hommes des idoles et les faire accéder à la liberté. Il les a libérés, parce qu'il ne peut pas faire alliance avec des hommes esclaves. Hein. Il veut faire alliance avec des hommes libres. Parce qu'on peut être esclave, je vais dire, socialement à l'époque, hein, mais libre intérieurement. C'est pas la même chose. Hein. Et là, toute l'histoire du désert, c'est ce peuple qui se construit dans la liberté. En dehors de tout conditionnement. Et en désert, on est en dehors des conditionnements. Hein. Voilà. On est face à face avec soi-même et avec Dieu, et dans une confiance, dans un chemin dont on a pris la responsabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Merci, c'est tout à fait le mot confiance. Si nous n'avons pas la confiance en Dieu, la tentation, c'est d'aller chercher ailleurs dans les idoles alors que c'est vide, bien sûr.
Merci beaucoup, Père Barthélemy, parce que vous avez, comme d'habitude, su tisser une trame où tout est lié, tout est relié avec tellement de bonheur. Et j'ai particulièrement aimé que vous ayez insisté sur deux termes qui me paraissent essentiels, c'est l'espérance et la responsabilité. Et je voudrais dire deux choses là-dessus. Je crois qu'un des aspects de notre responsabilité, c'est de ne pas nous laisser aller à la désespérance, de ne pas nous laisser broyer par la désespérance. Et il y a tellement de raisons de se laisser aller à la désespérance, encore que nous, on est très privilégiés, mais il y a tellement d'endroits dans le monde, tellement de situations qui peuvent faire qu'on se laisse aller à la désespérance. Une des responsabilités, c'est aussi de se tenir auprès de ceux, d'agir en faveur de ceux qui ont toute raison d'être broyés par la désespérance. Et pour montrer justement comment ces deux termes sont liés, je voudrais rappeler je ne l'ai pas trouvé comme ça, hein. Je lis et j'indexe, je prends des notes. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit nul ne peut se sentir à la fois responsable et désespéré. Je crois que vous nous l'avez bien montré ce soir. Et puis, je voudrais dire aussi, j'avais relevé des paroles dans une prédication du pasteur Marc Bereux, donc un pasteur de l'Église réformée de France, qui disait que, bon, c'est pas textuel, hein, c'est moi qui ai repris un peu, une des dimensions de notre responsabilité, c'est d'accepter chaque jour, l'alliance qui nous est proposée pour être libérés de notre cain intérieur. De ce cain intérieur qui risque toujours de nous entraîner vers des formes de déluge, des formes de naufrage. D'être préservés nous-mêmes, mais surtout de préserver des autres, des déluges, des naufrages qu'on est toujours prêt à provoquer. Merci.
C'est magnifique. Magnifique. Je pense que vous nous avez tout dit. Il est vrai que malgré tout, ce fut très très complet. Et c'est difficile d'intervenir après vous.
Il y a tellement de choses, et je suis pas sûr. C'est un peu comme quand on va voir un très beau film qui est très dense.
Oui.
Et je voudrais dire, parce qu'il y a des têtes nouvelles ce soir, que le père Barcellini a accepté, comme chaque fois, d'être enregistré, parce qu'on a fini à fonctionner. Il sera mis demain soir ou plus tard sur le site de l'Église réformée, qui est indiqué là, celui-ci est un site de l'Amitié juive chrétienne de France, et je pense qu'on aura beaucoup de plaisir à le réécouter. Comme quand il y a un film extrêmement dense, on ne voit jamais tout. On ne comprend jamais les liens, les hyperliens, comme on dit en informatique. Et je crois qu'en le réécoutant, on va découvrir des choses sur lesquelles on est complètement passé. Parce qu'il a dit des choses extrêmement fortes. Et à un moment, on est resté dessus, mais lui, il a continué. Et donc, on est resté sur une idée très forte, mais lui a continué à nous dire des choses très fortes. Et du coup, pendant qu'on restait sur l'idée, ben, on a laissé filer une autre. Mais c'est peut-être une de nos responsabilités plus vite, de réécouter pour bien entendre.
Norbert nous dit toujours des choses très sages, et c'est tout à fait vrai. Il y avait énormément de merveilles, d'enseignements dans ce que vous avez exprimé, mais quand je disais les fondements de l'être humain, c'est ça, au niveau spirituel, au niveau psychologique, à tout niveau, je ne pensais même pas que Noé pouvait apporter autant dans ce que vous avez pu nous dire et à travers ce que nous lisons simplement avec nos connaissances. Merci. Moi, j'avais le souvenir, petite fille, et je l'ai toujours, parce que je continue dans cette voie, je ne voyais pas l'arc en ciel comme l'arc de Dieu, mais avec la fin de la guerre, ou en tout cas, je ne le voyais pas comme ça. Je voyais comme l'alliance, comme son signe, il le dit quand même, cet arc qu'il met dans le ciel, il est pour l'homme, en signe d'alliance avec toi, dit-il. Et ça, c'est quelque chose qui m'est toujours resté parce que c'est mon père qui m'a appris cela. Et lorsque nous découvrions ensemble, et il me montrait l'arc-en-ciel, il me disait, n'oublie jamais Dieu, il est là. Et même quand les couleurs dont je vous parlais tout à l'heure ne se voient pas, même quand l'arc ne se voit pas, Dieu est là. Et j'adore chercher l'arc-en-ciel parce qu'on en a des beaux à Annecy. Magnifique. Et je prie à ce moment-là, je remercie Dieu d'être avec nous. Et je l'ai plus vu comme cela que, mais ce que vous avez dit est tout à fait juste, ça doit être mon côté plus féminin de ne pas aimer la guerre. Qui veut s'exprimer?
Oui, Père Marcelli, je voulais revenir au tout début de votre intervention sur quelque chose que je trouve assez juste et qui semble paradoxal. C'est les mythes renforcent l'histoire. Et on a tendance à croire, si on dit, ben voilà, la Bible, c'est une suite de mythes, donc elle n'est pas fiable. C'est ce qu'on a entendu souvent par certains sociologues. Alors qu'au contraire, je pense que le mythe est au cœur de l'histoire des hommes. Le mythe donne des réponses à nos inconscients collectifs. Je pense que dans le domaine de la psychanalyse, on construit des histoires, l'histoire personnelle de quelqu'un en fonction de ses mythes. Et je voudrais revenir là-dessus, si vous pouvez encore nous apporter un éclairage. Les fondements de l'histoire de l'humanité se construisent avec des mythes. Et aucune civilisation ne pourrait tenir sans mythe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Reviens là-dessus.
Oui, en effet, parce que le Dieu de la Bible, les juifs et chrétiens, nous croyons au Dieu de l'histoire. Hein? D'ailleurs, quand on parle des religions du livre, c'est pas un livre qui tombe du ciel. C'est un livre qui est une parole vivante qui surgit au cœur de l'histoire et de l'expérience humaine. C'est pour cela que la Bible, c'est une histoire, l'histoire d'un peuple qui fait l'expérience de ses découvertes de Dieu et de la révélation de Dieu. Et moi je pense qu'en effet, c'est que nous sommes liés dans l'histoire. Ce que nous vivons maintenant, il y aura aussi d'autres choses qui vont se révéler, moi je pense, hein, tout en ayant la Bible comme fondement. Hein, il n'y a pas une nouvelle Bible, il faut faire attention. Hein, c'est ça, c'est le fondement. Mais nous avons l'interprétation de l'histoire toujours à trouver, et cette interprétation, nous la trouvons dans la Bible. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais je ne lis pas l'Écriture comme un livre de sagesse. Hein. Je ne lis pas l'Écriture comme un livre de morale. Je lis l'Écriture comme une parole vivante de Dieu qui me rejoint maintenant dans ma vie actuelle. Parce que Dieu est toujours au cœur de nos vies. Et c'est pour cela que l'Écriture doit toujours féconder notre vie. Elle m'arrive souvent de dire que l'Écriture elle seule, elle n'est pas parole de Dieu. Que la vie elle seule n'est pas parole de Dieu. Parce que la vie, s'il n'y a pas Dieu, bon, ça ne révèle rien. Hein? Voilà, c'est pas la vie qui est parole de Dieu. Mais je dis, c'est l'Écriture qui féconde la vie qui devient parole de Dieu. Pas la vie toute seule. Pas l'histoire toute seule. Mais l'Écriture qui est la source, qui éclaire les événements de notre histoire. C'est pour cela que d'ailleurs la Bible est toujours assez attentive à ce qu'on appelle les signes des temps. Hein. C'est-à-dire, il y a des signes de l'histoire qui sont des appels de l'homme et de la situation de l'homme dans lequel nous découvrons les appels de Dieu. Moi, je sais pas, ça me semble important pour moi, ça. Hein. Parce qu'autrement, alors, on ferait de l'Écriture un livre de morale, hein, mais pas le livre de la parole vivante de Dieu. Hein. Souvenez-vous ce qu'on dit dans Deutéronome, hein, la parole de Dieu, tu ne vas pas au ciel pour la chercher, elle n'y sera pas. Tu ne vas pas au fond des mers pour la chercher, elle n'y sera pas. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et ça, elle est au cœur de nos vies.
Et c'est là que Dieu ajoute ce que vous avez dit tout à l'heure, je t'ai donné la vie et le bien, la mort et le mal, choisis la vie. Mais pour choisir la vie, c'est d'aller dans l'Écriture, dans des, l'interprétation aussi au moment de nos vies, ici et maintenant, qui peut des interprétations différentes selon les époques aussi, et des mythes vus de façon différente.
On avait fait une fois une soirée sur l'amour du prochain. Vous vous souvenez, hein, c'est ça. Et dans la Bible, on arrive à dire, même dans la Kabbale, hein, dans tous les textes, que l'amour du prochain est plus important que l'amour de Dieu. Dans ce sens, que l'amour de Dieu qui ne se traduit pas dans l'amour du prochain n'est pas un vrai amour de Dieu. Et que le projet de Dieu, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Vous avez rapporté ce passage de la Kabbale, quand Abraham parlait avec Dieu sur le temple, et arrivent les trois, les voyageurs, hein, les trois hommes. La Kabbale dit, Dieu, il parle, Abraham prie avec Dieu, et Abraham abandonne Dieu pour aller trouver les trois voyageurs et les recevoir. Elle dit, Dieu n'a pas été jaloux de ça. Il n'a pas été jaloux qu'il ait été abandonné, qu'il est allé vers les autres. Donc ça veut dire que, d'ailleurs, dans ce message de Noé, dans ce dernier message de Noé, c'est l'homme qui est le centre, hein, je le rendrai. C'est la responsabilité de l'homme pour l'homme. Et je pense que là, c'est l'avenir. Si on prend parti pour l'homme, la vérité de l'homme, l'amour de frère, l'amour de l'homme, on est dans le projet de Dieu. Et on prépare le véritable avenir.
Le mot avenir, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ça c'était très très important. C'est-à-dire avenir et Dieu à venir vers nous. Ça aussi, c'est quelque chose qui a fait assez tilt, mais c'est aussi l'attente de la venue du Messie. Donc c'est cette venue de Dieu vers nous. Mais c'est à nous d'aller chercher par nos actes. Et nos façons de vivre, oui, bien sûr.
La meilleure preuve de ce que vient de dire le père Barcellini, c'est que dans le rituel de Kippour, c'est bientôt Kippour, on ne peut pas espérer demander pardon à Dieu pour ce qu'on aurait fait pendant un an, si d'abord on ne demande pas pardon à ses proches, quitte à répéter la demande de pardon de ses proches jusqu'à 3 fois. Et quand on a demandé pardon, c'est après que l'on peut s'adresser à Dieu pour son propre pardon.
Oui, bien sûr, hein, c'est lié fondamentalement ensemble. Parce que, au fond, c'est. D'ailleurs, le texte, c'est remets-nous nos dettes comme nous les remettons. Et c'était donc. C'était le sens de l'année sabbatique, dans laquelle on remet les dettes à ses frères. On les fait sortir de prison, même si on a les dettes. Fini ça. Hein, voilà. Parce que pour Dieu, la terre promise. Ce n'est pas d'abord la rentabilité, c'est la gratuité et la vie des gens entre eux. C'est-à-dire la terre est sainte, que si toi tu vis sur cette terre, tu es saint. Je dis souvent que dans la Bible, il n'y a jamais le terme de terre sainte. Je dis, hein. Il n'y a qu'une fois dans le livre des Maccabées, je crois. C'est les chrétiens qui ont inventé le terme de terre sainte. Mais dans la Bible, il n'y a pas. C'est une terre sanctifiée par les choses. Elle est sainte que si toi qui vis sur cette terre, tu vis la sainteté de Dieu. Sinon, alors on sanctifie un territoire. La Bible, il y a un certain nombre de choses qu'on a besoin de retrouver hein, dans la Bible. Alors, ça veut dire que le pardon de Dieu est toujours un pardon qui engage la responsabilité à l'égard de mes frères. C'est toujours. Là, je dirais toujours que le don de Dieu, c'est toujours ma tâche. Si le don de Dieu ne devient pas la tâche, nous faisons de Dieu un paternaliste. Or, personne n'est moins paternaliste que Dieu. Dieu se donne à nous pour que nous accomplissions notre tâche. Il nous donne la nature, il nous donne la création pour que nous l'achevions. C'est notre tâche. Et ça, ça rentre au fondement même de la bénédiction juive, la bénédiction dans la Bible. Et là, nous avons repris, nous, dans nos prières d'offertoire à l'Eucharistie, la Beracha, de la Bible. Quand on présente le pain, on dit « Tu es béni, Dieu de l'univers. » Toi qui nous donnes ce pain, il est don de Dieu. Mais fruit de la terre et du travail des hommes. C'est-à-dire, il est don de Dieu, puis en même temps, fruit de la terre et du travail des hommes. Et plus il est fruit de, et plus il est don de Dieu, plus il devient fruit de la terre et du travail des hommes. Et plus il devient fruit de la terre et du travail des hommes, nous le voyons comme don de Dieu. Et nous disons, nous te le présentons dans notre prière. Elle est tout à fait d'origine juive. Parce que le mot offrir, c'est venu des Romains, ça, offérer. Tandis que je ne me trompe pas que dans la liturgie hébraïque, hein, c'est korban. Korban, c'est reconnaître la présence. Alors, nous te le présentons, ça veut dire nous reconnaissons ta présence. C'est l'alliance, hein. L'alliance au cœur de tout ce que nous vivons. Il deviendra le pain de la vie. S'il n'est que don de Dieu, sans fruit de la terre et du travail des hommes, il n'est pas le pain de la vie. S'il n'est que fruit de la terre et du travail des hommes, sans le voir dans toute sa finalité, dans sa source comme don de Dieu, il n'est pas le pain de la vie. C'est l'un et l'autre, hein, qui devient le pain de la vie. Je ne sais pas si je m'explique.
Merci. Nous remercions le Père Barthélemy. Vous avez dit, me semble-t-il, mais je n'ai peut-être pas bien compris, que toutes les alliances se terminent par le sacrifice. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu?
Merci. Quand lisez la Bible, toutes les alliances se terminent par un sacrifice. Abraham, hein, et puis les autres aussi, hein, Moïse, hein, l'alliance, le sacrifice. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien signifier la notion de sacrifice. Alors, je m'explique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas, hein, c'est peut-être difficile à comprendre, je ne sais pas. Parce que, dans le sacrifice païen, je mets païen entre guillemets, hein, c'est ça. Le sacrifice, c'est pour attirer la bienveillance de Dieu sur nous. Voilà. On chantait encore... à minuit chrétien, quand on chantait minuit chrétien, vous vous souvenez, hein,
oui.
Il est venu pour effacer la tâche originelle et de son père apaiser le courroux. Donc c'était s'attirer la bienveillance. Voilà. Donc, ça, c'est la religion, c'est pas la foi. La religion, c'est la peur de la vie. Hein. On se met la religion, on veut conserver les choses, on a peur des choses. Hein. On a peur de la nature, on a peur d'un certain nombre de choses. Alors qu'il y a des puissances derrière, là-dessous, hein. Ça c'est Dieu de la nature. Hein. Alors on veut attirer la bienveillance de Dieu. Alors le sacrifice est vu dans ce sens-là beaucoup. Marqué, on est toujours un peu marqué par ça, hein. Toujours, hein. Il faut dire que c'est une conversion continuelle à faire. Tandis que dans l'alliance, le sacrifice est signe de l'alliance. Elle est signe de l'engagement de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple, hein, avec Moïse. Oui. Il est signe d'une liberté d'engagement. D'ailleurs, si vous prenez l'engagement, l'alliance que fait Moïse avec le peuple, il demande la vie du peuple. Tu veux, hein, ces deux libertés qui se rencontrent. Et là, on signifie la rencontre de ces deux libertés. Je suis clair ? Parce que, au cœur de ce que nous vivons, Dieu le vit avec nous. Dans toute la Bible, c'est ça. Hein? C'est Dieu qui vit continuellement avec son peuple et avec l'humanité. C'est tellement profond que dans la Bible, les joies d'Israël, c'est les joies de Dieu, et les souffrances d'Israël sont les souffrances de Dieu.
Ah, le mot sacrifice,
voilà. Oui, parce que nous, on a chargé d'un certain nombre de choses. Hein. Oui, bien sûr, le sacrifice, c'est le manque, c'est mais ça, oui, oui, bien sûr, c'est la peine, c'est la souffrance, etc. Tandis que le sacrifice dans la Bible, c'est le signe d'une alliance et d'un don de la vie. Hein.
Merci.
Nous remercions le Père Barthélemy. Si plus personne n'a des questions, merci, merci infiniment. C'est toujours un grand, grand bonheur de vous écouter. Vraiment. Nous allons passer à des choses un petit peu plus matérielles, un petit peu différentes, mais enfin, ce sont les relations humaines. Elles existent beaucoup. Et on est fait de cela d'ailleurs, en sachant et en pensant effectivement que Dieu nous aide et qu'il est près de nous et que nous sommes avec lui. Alors j'ai quelques annonces à vous faire.